billets d'Europe, la chronique européenne animée par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Dans une chronique précédente, vous évoquiez, Daniel, la réponse à la crise économique et sociale née du Covid-19 comme une occasion pour l'Union européenne de montrer que la solidarité européenne n'est pas un slogan comme l'affirment certains. Où en sommes-nous aujourd'hui ?
Alors, l'Union n'a pas attendu la fin du mois de mai pour rappeler combien la solidarité constitue un des ressorts dans la lutte contre la pandémie. S'agissant de la réponse aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, outre le programme d'urgence et d'ampleur de la BCE, je vous rappelle, plus de 1 000 milliards d'euros, des mesures d'urgence ont été validées par le Conseil européen fin avril pour une entrée en application le 1er juin. Elles comportent trois volets. Un refinancement à hauteur de 100 milliards d'euros sous forme de prêts des dispositifs de chômage partiel décidés dans les États membres. La garantie de 200 milliards d'euros apportée par la BEI, Banque Européenne d'Investissement, aux secteurs économiques les plus touchés et aux PME. Enfin, la mise en œuvre du mécanisme européen de solidarité, le MES, pour 240 milliards d'euros. Alors, ces mesures constituent une première ligne de défense, mais elles sont insuffisantes pour assurer la reprise économique, tant la situation très dégradée de certains pays, notamment dans l'Europe du Sud, les prive de toute marge de manœuvre budgétaire et rend indispensable la solidarité entre États membres. Pour cette raison, le Conseil européen a souhaité que l'Union intervienne de façon complémentaire aux actions budgétaires nationales. C'est l'objet du plan de relance de la Commission, dévoilé le 27 mai, sa présidente, devant le Parlement européen.
Alors, qu'y a-t-il dans ce plan de relance de la Commission européenne ?
Alors, le plan baptisé en bon français Next Generation Europe est censé débuter le 1er janvier 2021, après adoption par le Conseil et le Parlement européen. Il comporte deux éléments principaux. Le financement du plan repose sur l'émission d'un grand emprunt européen. C'est une grande première, hein. La Commission emprunte en son nom, sur les marchés financiers, 750 milliards d'euros qui alimentent un fonds de relance complémentaire du budget pluriannuel. Ce fonds est composé de deux parties, des subventions qui sont redistribuées via le budget européen pour 500 milliards d'euros, et des prêts remboursables par les États bénéficiaires pour 250 milliards d'euros. Compte tenu de sa bonne image auprès des marchés financiers, la Commission doit pouvoir bénéficier de taux d'intérêt faibles. Si le paiement des intérêts de la dette contractée par l'UE doit démarrer dès 2021, le remboursement de la dette elle-même ne débutera qu'à partir de 2028 pour s'achever en 2058. Le deuxième élément, c'est que le plan prévoit une hausse du budget pluriannuel de l'Union qui atteindrait 1100 milliards d'euros pour la période 2021-2027. La question du financement de cette hausse n'est pas encore tranchée. Augmentation des contributions nationales, réduction des dépenses de l'Union ou nouvelles ressources propres. C'est cette troisième option qui a, semble-t-il, la préférence de Bruxelles, où l'on évoque plusieurs pistes, parmi lesquelles une taxe sur le digital, une part des recettes sur les droits d'émission de CO2.
Alors en quoi ce plan est-il novateur ?
Alors, avec l'emprunt européen, la Commission évite de creuser la dette nationale des États membres. Elle ne se contente pas, comme avec le mécanisme européen de stabilité, le MES, de les protéger de la faillite. Elle les aide à financer les investissements et les réformes inscrites dans les plans nationaux de relance. Comme l'écrit l'économiste Patrick Artus, c'est de la mutualisation offensive. Ce rôle confère à l'Union un positionnement politique fort qu'elle n'avait jusqu'à ce jour jamais adopté. Avec l'augmentation des ressources budgétaires indispensables pour assurer le remboursement de ses emprunts, l'Union se dote d'une marge de manœuvre budgétaire nouvelle, d'autant que l'accroissement des ressources propres diminue quelque peu sa dépendance à l'égard des contributions nationales, donc à l'égard des États.
Mais ce plan en l'état n'est qu'un projet. A-t-il quelque chance d'être adopté ?
Alors c'est effectivement la question, et le volet politique est essentiel. Ne l'oublions pas, il a fallu l'initiative franco-allemande du plan Macron-Merkel le 18 mai pour que s'enclenche la dynamique européenne. C'est l'acceptation par Angela Merkel de la mutualisation des dettes publiques européennes, refusée par l'Allemagne jusque-là, qui a changé la donne. En se ralliant à l'idée de transfert budgétaire entre États, la chancelière a quitté le camp des pays dits frugaux, à la grande satisfaction évidemment des pays du Sud. Mais unanimité oblige, la Commission va devoir convaincre les pays hostiles au transfert massif. C'est l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. Et il va devoir aussi rassurer les pays inquiets, notamment d'Europe orientale, quant au maintien des fonds de cohésion. Le plan de relance européen y travaille. comme le réclament les premiers, les pays radins, frugaux, les transferts aux pays bénéficiaires seront assortis de conditions. Plan d'investissement et de réforme compatibles avec les priorités de la Commission européenne en termes de transition écologique et numérique et prise en compte des recommandations annuelles de la Commission en termes de réformes structurelles visant à améliorer la compétitivité. Pour satisfaire les seconds, hein, pays d'Europe centrale, eh bien, on annonce le maintien et même l'augmentation des fonds de cohésion entre aujourd'hui et 2022, plus 55 milliards. En moyennant quoi, les pays les plus affectés par la pandémie pourront prétendre à l'enveloppe de subventions octroyées. Pour l'Italie, 82 milliards d'euros. Pour l'Espagne, 77 milliards d'euros. La France, 39 milliards. La Pologne, 38 milliards. L'Allemagne, 29 milliards. Et prétendre aussi à celle des prêts réalloués, dont 91 milliards pour l'Italie, 63 pour l'Espagne, 26 milliards pour la Pologne. Au total, ce plan de relance et de solidarité, la messe n'est pas encore dite. Hein. Nous saurons dans quelques semaines si la crise sanitaire, la crise de la ou du Covid-19, a, comme l'annoncent certains analystes, provoqué un tournant fédéraliste de l'Union.